voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Anne Kefelec. Ce soir, l'homme de ma vie.
Bonsoir Anne Kefelec.
Bonsoir.
Anne, hier, nous avons parlé de l'initiation, de la découverte de la musique, oui. Du piano, votre premier parcours. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un tout petit extrait, puis ensuite on va parler. Anne, 17 janvier, dite Tita, dite Shuna, la féminité tutélaire de la maisonnée après la mort de maman. Alors, ces deux lignes sont extraites du livre que votre frère Yann a publié au trimestre dernier, trimestre 2015, L'homme de ma vie, qui est un livre essentiellement sur son père. Mais comme il parle de son père, il parle de vous. Évidemment, ça m'a beaucoup intrigué de lire ce livre et à travers cette lecture, de voir comment la famille Kefelec, qui est devenue une famille célèbre, grâce à vous tous, comment vous vous situiez, comment votre frère en parlait, comment on va évidemment rentrer, si vous le voulez bien, aujourd'hui dans cette dans votre univers familial. Alors je rappelle que il y a le père fondamental, Henri Kefelec, grand écrivain, prix de l'Académie française, grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre aussi, si j'ai bien compris, autour duquel tout s'organisait. Et puis, les quatre enfants.
Je vous laisse parler hein, pour l'instant.
Oui, oui. J'entends bien, j'en profite. et puis, donc, écrivain reconnu, breton, très connu pour tous ses livres autour de la Bretagne. Et puis, quatre enfants. Vous êtes la seule fille parmi trois frères. Et donc, il y a votre frère Yann, qui a eu le prix Goncourt pour les noces...
En 1985.
En 1985, pour les noces barbares. Et qui a écrit depuis une quarantaine de livres à peu près, je ne sais pas exactement. Votre père, lui, est très connu pour avoir écrit Le recteur de l'île de Sein, qui a été porté...
Un recteur de l'île de Sein, d'ailleurs, qui a été porté à l'écran par Jean
Delannoy. Moi, j'ai le recteur de l'île de Sein. Mais bon, vous avez peut-être raison. Il a été porté à l'écran par Jean Delannoy sous le titre « Dieu a besoin des hommes », avec Pierre Fresnay et Madeleine Robinson. Voilà. Alors, dans ce livre, votre frère Yann... raconte beaucoup l'univers familial, en particulier aussi la lutte contre la modernité, une certaine tradition.
Oui, ce dont j'ai parlé un petit peu hier,
Voilà, donc il y a le père, il y a le frère, et il y a vous. Donc ça fait trois personnages quand même très célèbres. Sur le plan de la littérature et de la musique. Je ne parle pas de vos autres frères, parce que vous avez deux autres frères.
Deux autres frères
et puis votre mère aussi, dont vous avez dit qu'elle avait joué un rôle essentiel dans votre formation musicale. Et qui est morte prématurément en 1970, votre frère le raconte d'ailleurs de façon très touchante. Comment vous vous y retrouvez dans cette famille qui est imposante? Quand on la voit à l'extérieur, on se dit « Oh là là, les Kefelec, quelle histoire !»
Oui, enfin, on aime bien toujours, quand on voit les choses de l'extérieur, s'arrêter justement à peut-être ce qui est montré dans la vitrine, en quelque sorte. Mais en l'occurrence, dans toute famille, dès qu'on commence à... Parce que vous dites, quand on pousse une porte, on entre dans cet univers. En fait, c'est sa porte à lui. Moi, j'entre par une autre porte, évidemment. L'homme de ma vie, comme l'intitule en effet ce livre, c'est une très belle façon de dire. C'est aussi, pour moi, l'homme de ma vie. C'est son père, mais c'est aussi mon père. Et cet homme était aussi le mari de notre mère chérie, et femme absolument exceptionnelle et radieuse de bonté, d'humanité, d'intelligence, du cœur aussi. Elle n'était qu'amour, mais un amour qui n'empêchait pas du tout, qui n'était pas du tout ni aveugle ni sourd. Elle était totalement capable d'être critique et d'avoir un regard aigu sur ses enfants et je dirais aussi sur son mari. Elle a, en tant que, je suis vraiment heureuse de parler d'elle là, parce que en tant que compagne de cet homme écrivain, elle a été totalement idéale parce qu'elle a parfaitement compris la nécessité pour lui en tant que créateur d'avoir un minimum de soucis domestiques. Donc, et par ailleurs, elle tapait tous ses manuscrits et elle n'hésitait pas. J'ai retrouvé des lettres très, très frappantes d'échanges entre eux où elle lui dit, il me semble qu'à la fin de ce chapitre-là, il faudrait mieux que cette fin, tu la remettes au chapitre suivant parce que ce serait plus fort si ça se terminait sur telle et telle scène, et il était toujours d'accord. Oui. Il était toujours d'accord, elle était une directrice littéraire en quelque sorte, incroyable, parce qu'elle-même, elle écrivait magnifiquement bien. Oui. Et j'espère avoir du temps pour un jour pouvoir faire moi-même un livre à partir des lettres de cette femme qui avait vraiment un don d'épistolaire, d'une vivacité, d'un humour et d'une causticité, d'une intelligence incroyable. Elle jouait ce rôle-là vis-à-vis de moi. Elle a aussi été, par rapport à la musique, extraordinaire.
Votre mère s'appelait Yvonne Bénaud.
Oui.
Yvonne Bénaud. Elle a épousé Henri en 1940, Anne Kefelec. Et effectivement, à lire, on a l'impression qu'elle s'est entièrement dévouée à la fois à lui et à sa famille. Je vais lire juste un tout petit extrait d'une lettre que cite votre frère Yann, qui est très belle. On voit que c'est
magnifique,
une femme.
Oui.
Je n'imaginais pas le plaisir que je prendrais à voir des oiseaux picorer des miettes de croissant. Chaque jour, ils m'entendent fidèlement dans la courette, piétinant la neige fondue. Ton papa sort marcher l'après-midi, toute cette neige m'inquiète un peu. Je lis jusqu'au soir en l'attendant, plongé ces jours-ci dans Mémoire d'une jeune fille rangée, je m'aperçois, grâce à Simone de Beauvoir, qu'il faut dire aux enfants les sentiments qu'ils nous inspirent et qu'il est délicieux d'éprouver leur contact. Tu as bon cœur, mon chéri, et tu devrais parler à ton papa. C'est un homme secret, mais tel bonbon. Souviens-toi qu'il n'a jamais connu un père. Oui. Un mot de ta part lui délierait la langue aussitôt. Un mot suffit pour se dire les choses, et peu importe qui fait le premier pas. Tu ne le regretteras pas, mon chéri, tu m'ôteras un tel poids du cœur ce jour-là. Et crois bien que je lui parle à lui comme je te parle à toi. Mauriac a bien raison d'épingler le mutisme imbécile des familles ravagées par le malentendu. Oui. Parce que c'est un très beau texte,
c'est un très beau texte.
On a quand même l'impression, quand on lit le livre de Yann, qui règle ses comptes avec son père, qu'il n'a jamais pu communiquer avec lui, que c'était un personnage écrasant. Il le décrit comme jaloux de son succès, comme refusant absolument. Il raconte une scène quand il lui annonce qu'il a le Goncourt, il n'arrive même pas à lui dire. Et son père s'en fiche,
en fait. C'est complexe, tout ça.
C'est très difficile.
Je ne dirais pas que son père s'en fiche. Au sein
de... Trace un portrait.
Moi je tracerai un portrait totalement différent, évidemment. Alors, et en même temps, je respecte évidemment aussi le ressenti de mon frère. Chacun au sein d'une fratrie a son propre lien, sa propre relation avec les parents. Et je suis bien consciente que, moi-même étant la seule fille, que mon père, envers sa fille, avait une forme de tendresse très particulière aussi parce que je faisais de la musique. Et puis, il avait, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que peut-être mon frère n'est pas assez conscient de cela, si j'ose le dire, du fait que mon père n'a pas connu son propre père, qu'il l'a perdu à l'âge de 6 ans et qu'il a été élevé, entouré d'un gynécée en quelque sorte, avec deux grands-mères et sa propre mère, trois femmes veuves, cinq sœurs. Et puis un frère, heureusement qu'il y avait quand même un compagnon de jeu, un garçon, un frère de mon père.
Oui, bon,
donc
votre oncle.
Ils étaient mon oncle, voilà, mon oncle Jean. Mais cet entourage féminin était très, évidemment très protecteur. Et puis, malgré tout, la relation père-fils, mon père en tant que fils ne l'a pas connu lui-même. Et je sais qu'il avait certainement le souci de faire de ses fils des hommes. Il n'avait absolument pas le souci de faire de sa fille une femme ou un homme, naturellement pas. Il était attendri par sa fille et je pense qu'il devait trouvait que ça c'était très bien que sa femme, la mère, élève la fille, comme lui-même devait avait plus sa charge de transmettre des valeurs peut-être un peu différentes à ses fils. Quoi qu'il en soit, mon père à côté de ça et c'est très complexe aussi le ce que ressent mon frère évidemment vis-à-vis du père, et c'est pas, je vais pas parler à sa place, il le fait avec un immense talent dans ce livre en particulier, mais souvent quand je lis certaines descriptions, certaines évocations du père sous sa plume, je ne reconnais pas mon père mais je considère que moi je suis heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui. J'ai aussi ma vérité à moi de ce père, pas en tant que non plus chouchoute véritablement, mais je l'ai connu aussi à travers ses amis, et je sais combien, par exemple, quelqu'un comme Julien Gracq, qui était un de ses amis d'école et très proche, combien il avait aussi en lui de générosité. Et là, mon frère me rejoindrait, je sais, un total désintéressement vis-à-vis de l'argent. Cet homme était un homme authentiquement intègre, bon, vraiment. Ma mère, là, je suis d'accord, vraiment, il pouvait être ami aussi bien de Pompidou, président de la République, qui l'invitait à l'Élysée à déjeuner, qu'il allait par exemple suivre les spectacles du Guignol du Parc Montsouris. Il aimait beaucoup le montreur de marionnettes du Parc Montsouris parce que il trouvait que cet homme soignait les textes des petites séances qu'il accordait aux enfants. Donc il trouvait ça remarquable. Il allait l'encourager. Il allait régulièrement se promener au cimetière Montparnasse. Il avait un grand ami en la personne d'un Sénégalais gardien du cimetière. Il était ami avec les patrons des chalutiers avec lesquels il partait faire des campagnes de pêche à Terre-Neuve, oui, pendant 3 mois. Donc avec tout, moi ce que je trouvais, et rétrospectivement je me rends encore plus compte, dans ce milieu d'écrivains, de la littérature, où il y avait quand même les cocktails littéraires, les mondanités, ça c'était totalement étranger à sa personne. Lui, il était tout le temps lui-même authentique. Il avait une capacité d'écoute, d'attention absolument exceptionnelle. Et moi, je vous lirai aussi tout à l'heure un petit extrait sur la musique, sa façon de parler de la musique en poète et en homme sensible. Et combien de fois il donnait à tout va, alors qu'il n'était pas riche du tout. Il était vraiment. Vous voyez, donc il y a cet aspect d'humanisme dont je suis heureuse de parler.
Anne Kefelec, vous avez dit une chose très juste. De toute façon, moi je l'ai vécu aussi dans ma propre famille. On vit la même chose et on ne vit pas du tout la même chose. Quoi.
Chacun a sa relation, bien sûr. Mais il n'y a pas deux amours semblables.
Dans ce livre, puisqu'il a publié un livre public dont il a beaucoup parlé, on voit bien malgré tout l'espèce de rivalité, d'une part, qu'il y a eu entre eux. En tout cas, c'est comme ça que votre frère l'a ressenti.
Oui, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et ça, je ne peux que respecter, naturellement.
La difficulté de dialogue avec lui, il y a ce voyage qu'il fait au Spitzberg pour parler, et puis finalement il se parle pas du tout, donc le voyage ne sert pas. Oui. Et vous en êtes consciente, puisqu'à un moment, pardon, je vous cite, je cite un passage dans lequel vous êtes parfaitement consciente de cette situation et ça vous embête. Tita, c'est vous. Oui. Tita retourna jouer du piano, l'Allegro Barbaro, cette fois, de Béla Bartok. Un morceau dont je lui avais dit qu'il était mon portrait tout craché. Je n'ai jamais voulu d'avoir d'autres sosies. Mon premier livre publié porte son nom, Béla Bartok. Puis, Tita m'écrivit une lettre, à la manière de maman, une lettre de vie, pour toujours. On a l'impression d'entendre la voix respirer dans les mots. Citation de vous, donc. Ne sois pas orgueilleux, frérot, je t'en prie. Grandis-toi de la pensée d'être le premier à rompre la glace entre vous, tu seras payé de ton courage au centuple. Et ne crains pas sa réaction. C'est celle de votre père. C'est contre les falaises les plus escarpées que les vagues se brisent le plus violemment.
Vous voyez, je n'avais pas le souvenir de ça, mais je ne peux que.
Il vous cite. On croirait. C'est très proche de l'aide de votre mère, d'ailleurs, que j'ai lu tout à l'heure. Là, vous lui écrivez un peu la même chose, quoi. Vous lui dites écoute, vas-y, essaye. C'est difficile.
Me rappelle moi-même avoir parlé à mon père, en effet, une dizaine d'années avant sa mort, où j'avais la sensation d'un rendez-vous manqué entre eux, qui avait quelque chose de, un contact qui ne se faisait pas et qui aurait pu et dû se faire et qu'il s'en fallait peut-être pas de beaucoup. Et en même temps, je me souviens quand même avec émotion du fait que mon père acceptait tout à fait que je lui dise, tu sais, ce serait bien que tu lui exprimes que tu l'aimes, parce que je suis sûre, mon père aimait son fils et qu'il n'a pas su lui dire. Et mon père, contrairement à bien des personnes âgées qui ne veulent absolument pas se remettre en question par rapport à leurs enfants, n'avait absolument pas une réaction d'orgueil en disant, mais tu te rends pas compte des soucis que j'ai eu avec lui. Il disait absolument pas ça. Il écoutait. Il écoutait, je sais qu'il était blessé parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas éclairé entre eux, et que je pense qu'il y avait, et là je me souviens de ma mère qui m'avait parlé de ça aussi, qui m'avait dit à propos des hommes qui ont de la peine à exprimer leurs émotions, elle m'avait recommandé, alors qu'elle avait la pression qu'elle allait en effet mourir, qu'il faudrait que, je me souviens de ça, que je sois l'oiseau berger après sa mort, l'oiseau berger. Alors elle faisait référence à une légende, je crois, berbère ou quelque chose comme ça, la phrase, les hommes perdus avec leurs émotions, tout à coup, eh bien, ce serait à moi, femme de la famille, de garder ce lien. Et je crois aussi, et pour moi, c'est quelque chose dont j'aimerais vraiment reparler avec mon frère d'ailleurs, je pense que la mort prématurée de notre mère, qui était la clé de voûte de la famille, a fait que chacun ensuite aussi a dû faire face à ce chagrin, à ce manque, parce qu'elle nous a manqué à tous, et moi je pense à elle tous les jours. Elle a manqué évidemment à notre père, et que probablement qu'il n'aurait, il aurait écrit un livre différent si ma mère avait vécu. Peut-être en a-t-il voulu au sort. Après tout, il dit pourquoi est-elle morte et pas lui, j'en sais rien. Je vais très 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 loin dans la supposition. C'est énorme de dire ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, on en veut énormément à la fatalité. Pourquoi dans cette famille où en plus tout le monde vivait très 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 vieux, ma grand-mère est morte très âgée, toutes mes tantes aussi, la sœur de ma mère, elle est morte à 102 ans. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on s'est tous aussi révoltés par rapport. Bon ben voilà, c'est ainsi est la vie, on ne choisit pas. Mais il y a peut-être eu aussi cette... je ne sais pas, c'est très complexe. Là, je voudrais y aller tout doucement dans ma façon d'en parler. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas, quand je voudrais que je vous lise un des textes de mon père sur la musique, mais...
Oui, d'abord, Anne Kefalek, un petit mot sur vos relations à vous, parce qu'avec votre frère, vous faites maintenant...
On s'entend très bien.
Oui, et il écrit aussi « Tita, ma sœur Anne, fut une âme sœur quand j'étais le petit frère. »
Oui, oui. Mais ça
elle
me touche
énormément.
Fut
la première fille à qui je donnais la main. Moi, son premier chevalier servant.
Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Il me défendait quand oui.
Maintenant, l'un et l'autre, vous êtes devenus des personnages.
Oui, oui. On avait une grande complicité. C'est vrai.
Vous l'avez gardé toujours.
Ah oui, oui, oui.
Il parle de vous avec beaucoup d'affection.
Oui, oui.
De
et moi aussi, j'ai énormément d'affection pour lui. Ça n'a rien à voir. Le fait que nous n'ayons pas le même regard sur le père, c'est une chose. Mais notre lien à nous. Il est tissé évidemment à tout ce qui nous touche à l'enfance et qui est toujours commencé tellement, tellement fondateur. Et je me souviens que réciproquement, quand nous avions des chagrins d'amour, le confident, la confidente, oui. Et on s'encourageait, et on a eu des belles fêtes ensemble. Et je crois qu'on partage le même amour de la vie aussi, vraiment.
Vous le manifestez en tout cas beaucoup, notamment à travers la musique, l'écriture et pas seulement. Oui. Lui, c'est le bateau. Passion qui n'est pas vraiment la vôtre d'ailleurs, le bateau, parce que lui, ça prend une grande place dans sa vie.
Je suis nulle. Quand ça tangue un peu trop, moi j'aime bien le plancher des vaches, je veux dire que...
Oui, mettre un piano sur un bateau, c'est pas facile.
Voilà, d'une part, et au fond, mais sans cette sensation de bateau, par contre, et ça je ne sais pas si je retrouverai jamais ça, mais j'ai un souvenir merveilleux d'avoir su godiller, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, godiller, juste avec une rame dans le bateau de mon grand-père, et ça demandait de la poigne quand même, et puis il fallait s'arrimer, enfin, de bien prendre appui au sol avec ses deux pieds, même si ça dérape un peu avec les paquets de mer qui entraient dans le bateau. Ramer, godiller, ça m'a énormément plu, je ne sais pas, j'aimerais voir si je serais, est-ce que ça fait partie des innombrables questions qui n'auront pas de réponse, est-ce que je serais encore capable de godiller, je ne sais pas.
C'est une technique, on l'apprend pas.
Ça ne se fait plus.
Mais peut-être aussi parce que vous êtes parti jeune finalement. D'ailleurs, Yann Kefelek écrit « Un week-end, Tita ne fut plus au 52, les Dupuis les avaient jetés dehors. » Alors je ne sais pas si c'est le vrai nom.
Si, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il ne risque pas un petit procès là-dedans. Mais de fait, c'était un voisin du dessous qui me voue une haine absolument féroce, il m'aurait tué cet homme, et dès qu'il entendait une note de piano, même si c'était ma mère ou mon père ou un de mes frères qui de temps en temps pouvait tapoter, décrocher son téléphone et arrêter immédiatement, oui, mais c'était il était un malade de toute façon, un névrosé, oui, puisqu'il avait même un martinet dans sa cuisine, je me souviens.
Ah bon, d'accord.
Et parfois il s'en servait.
Donc c'était dangereux.
Non, pas pour lui-même.
D'accord, c'était dangereux.
Mais enfin, c'était
Mais on voit tous ces conflits familiaux, toutes ces tensions, ces différences d'appréciation, et puis en même temps une grande harmonie parce que vous vous retrouvez autour des mêmes valeurs, autour de cette éducation.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait des. Et puis tout de même, et là, il serait aussi bien d'accord avec moi, ces repas extraordinaires où mon père, tout à coup, nous racontait des histoires, et ça commençait toujours par la phrase « Alors le grand loup sortit de la forêt ». Ça commençait comme ça. Ça, c'était la phrase liminaire. Et quelle que soit l'histoire qu'il allait raconter après, je me souviens, alors là, et des contes pour qu'il improvisait pour Lou, pour ses enfants, pendant les repas, et qui étaient des aventures totalement abracadabrantes, puisque je me souviens qu'une fois, le loup rencontrait même des sardines en pleine forêt, donc vous voyez, c'était très ouvert.
Il avait beaucoup d'imagination.
Mais ça, c'était sont des souvenirs, évidemment, extrêmement joyeux, oui.
Mais alors, vous vouliez nous lire un texte de votre père sur la musique,
parce que quand j'étais d'ailleurs,
c'est un sujet encore très sensible. Hein, je vois que ça vous touche beaucoup.
Ah oui, ça me vient bien sûr. Ça touche beaucoup.
Le livre, on sent que dans ce livre, L'homme de ma vie, il y a un règlement de compte. Il y a une plaie toujours ouverte, quoi. C'est pas fermé.
Et en même temps, alors il le reconnaît, d'ailleurs, parce que la plaie ouverte, elle est aussi une plaie féconde. Et donc, ce n'est pas qu'une blessure. De toute douleur, on peut sortir souvent des fruits. Et en l'occurrence, il en a sorti de magnifiques. Et il est vrai que, totalement inconsciemment, enfin, on en est tous là, d'ailleurs, au sein de la famille, nous avons bu ce lait-là. Nous avons été imprégnés par la façon dont mon père parlait, dans son écriture, de la même manière pour ma mère. Donc la priorité, encore une fois, des valeurs artistiques et spirituelles au sein de la famille, ça nous a constitués. Et il n'écrirait pas comme il écrit maintenant s'il n'avait pas été à cette source-là. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de ce que communiquent les parents et ce qu'ils transmettent simplement parce qu'ils sont. Et j'avais eu la chance, donc je me souviens, j'étais enceinte de mon premier fils d'ailleurs, de faire un petit voyage en Algérie avec mon père, au cours duquel on donnait des soirées musique et littérature sur le thème musique et mémoire, musique et la mer.
Vous, lui.
Et voilà.
Et le Kefelek.
Henri Kefelek, et maintenant je le fais avec Yann. Il a écrit un très 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 beau texte, mon frère Yann, sur les pièces que je joue au cours de cette soirée. Et son texte s'enroule comme une espèce de liane. C'est un voyage tissé, vraiment c'est magnifique ce qu'il a écrit, Yann. Il n'a pas publié. Mais mon père, avant donc, avait fait cela. Alors, je ne sais pas. Mais c'est splendide. Il s'adresse, c'est dans une conférence. Donc, rien n'est simple ce soir, puisqu'il parle de la phrase de Pascal. Rien n'est simple de ce qui se propose à l'âme, et c'est bien ce dont nous sommes en train de parler en ce moment, avec le rapport au Père. Rien n'est simple de ce qui se propose à l'âme, et l'âme ne se présente jamais simple à aucun objet. Donc il part de cette phrase de Pascal, et ensuite donc mon père, Henri Kefelek, s'adresse au public. « Rien n'est simple ce soir, ni les autres soirs de musique, c'est-à-dire peut-être tous les soirs. Car quel soir, un souvenir de mélodie ou d'accord ne peut-il vous atteindre ? Rien n'est simple dans les ouvrages musicaux qui se proposent à vos âmes. Le fameux inconscient collectif de l'humanité, célébré par Jung et d'autres psychanalystes, joue un rôle considérable dans l'élaboration des morceaux. Mais lequel ? Nous ne pouvons que présenter des hypothèses poétiques. La réponse nous sera donnée dans un autre monde. Libre à l'imagination de percevoir dans un air de Bach, de Jean-Sébastien Bach, le contentement des tribus qui enfin ont pu renoncer au nomadisme, fondeur pour leur famille de demeures stables. Dans un passage de Ravel, tous les mois de la fonte des neiges sur les contreforts d'une pente de montagne. Chez Debussy, les titres liens vite, la fuite épaisse des sélacantes au profond de la mer originelle. Libre à elle, encore une fois, et nous ne pouvons l'enrailler. Les races, les espèces, les clans, les fuites, les errances, une innombrable genèse d'histoire humaine a déposé en nous les marécages d'où montent comme des vapeurs ces trios, ces sonates, ces symphonies. Leur magnifique ordonnance témoigne d'une volonté de fer dans le choix des matériaux. Cependant, elles échappent, débordent la logique, elles gardent le secret barbare de leur naissance. Et je pourrais lire comme ça, continuer ce texte absolument admirable. La beauté des phrases musicales reste mystérieuse, mais nous avons besoin de nous redire que ce sont des êtres de chair et de sang comme nous qui les ont écrites. Non des anges compositeurs ou des fanatiques de la triple croche, des pizzicati ou des passages du pouce, mais des hommes, des vrais dont le flux artériel continuait de bondir. Nous écoutons une ballade, une sonate, et d'abord nous écoutons un homme qui a voulu se libérer, perpétuer des sentiments, des états d'âme, des passions, quand même il eût écrit sur commande, et enclore le souvenir dans des monuments plus durables que sa vie terrestre. Non omnis moriar, je ne mourrai pas tout entier. La mémoire de mes amours et de mes rêves est passée dans des notes de musique, tel un levain dans la pâte, et vous ne pourrez plus l'en dissocier. Et quand je lis ça, vous voyez, je suis infiniment et admirative et touchée. Et je, voilà, nous avons été en contact avec cet homme et c'est passé dans son sang à mon frère, c'est passé dans sa plume.
Et au vôtre aussi d'ailleurs, à travers les doigts qui parcourent le clavier.
Oui, puis à travers tout l'imaginaire, la sensibilité, l'éveil. Et j'espère que nous pourrons parler de l'importance de l'éducation musicale.
Mais là, vous nous avez lu un très beau texte.
Notre soirée.
Anne Kefelec, un texte donc de votre père Henri Kefelec sur la musique, lu par sa fille Anne. Et voilà, nous allons rester là pour ce soir. Merci Anne Kefelec.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Anne Kefelec. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Patrice Klein, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.